Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Considéré comme l'un des plus grands docteurs de l'histoire de l'Église, saint Thomas d'Aquin a été de nombreuses fois représenté par des peintres de tous horizons. La figure de saint Thomas fascine et elle fait d'ailleurs l'objet d'une exposition qui est proposée jusqu'au 29 juin au musée de l'Institut catholique de Toulouse. Le nom, saint Thomas, une sagesse offerte à tous. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claire Rousseau. Vous êtes membre de l'Institut historique de l'Ordre des prêcheurs à Rome. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée, bonjour chers auditeurs.
Et avec vous, vous avez votre stagiaire qui est étudiante à l'Institut, à l'Université Jean Jaurès, master régie d'œuvre et médiation, Louise Delamarche. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas saint Thomas, est-ce qu'on peut faire une petite présentation en... 2 minutes chrono peut-être.
2 minutes chrono pour un tel homme, c'est un peu rapide.
C'est rapide, mais c'est le défi que je vous lance en tout
voilà.
cas.
Voilà, on va dire que Thomas est né en Italie. Il est le fils d'une grande famille, la famille d'Aquino, qui vit au château de Rocca Secca. Mmh. Ses parents ont pour ambition d'en faire un bénédictin, donc ils le placent dans son enfance à l'abbaye du Mont Cassin, laquelle abbaye va l'envoyer poursuivre ses études à Naples, où il va rencontrer les dominicains. Et là, il fait le choix de la vie dominicaine, ce qui ne plaît pas d'ailleurs à sa famille. Mmh. Et l'ordre des prêcheurs va ensuite l'envoyer se former à Paris, puis à Cologne, où il devient l'assistant d'Albert le Grand. Et la carrière universitaire de Thomas d'Aquin est ainsi lancée. Mmh. Thomas est mort sur la route qui le conduisait au Concile de Lyon en 1274. Il est d'abord enterré donc là où il décède, puis après sa canonisation, en 1368, le pape décide d'envoyer ses reliques à Toulouse. C'est pourquoi le corps de Thomas d'Aquin repose habituellement sous l'autel des Jacobins de Toulouse.
Mmh. Au cours de l'histoire, Thomas d'Aquin a été régulièrement représenté. Pourquoi il est représenté, saint Thomas? On sait que c'est un théologien qui a marqué par sa pensée, par son intelligence. C'est pour ça qu'il est représenté régulièrement dans l'histoire?
Oui et non. Alors non, parce que en fait tous les saints sont représentés. Mmh. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est canonisé, eh bien, on s'attache à le faire connaître et donc à diffuser son iconographie, portrait, scène de sa vie, etc. Et c'est le cas de Thomas puisque l'exposition que nous avons organisée est dans le cadre du 7e centenaire de sa canonisation, qui a eu lieu à Avignon. En 1323.
Et justement, comment ça naît le fait de représenter un saint? On s'inspire de quoi pour le représenter, pour faire naître cette iconographie autour de lui?
Alors, pour Thomas d'Aquin, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet.
Alors, et je précise d'abord d'ailleurs aux auditeurs qui peuvent se rendre sur la page Facebook de Radio Présence et voir l'ensemble des œuvres que nous allons décrire.
Voilà, donc pour Thomas d'Aquin, son iconographie naît de deux manières, ou si vous voulez, sur deux supports, ou plusieurs supports. Mmh. Il y a d'abord dans les livres liturgiques, ou à la fête du saint, on va insérer une enluminure représentant ce saint.
Alors pour préciser aux auditeurs, une enluminure, qu'est-ce que c'est?
Alors une enluminure, c'est une petite peinture sur parchemin. Mmh. Qu'elle soit le plus souvent insérée dans des manuscrits ou sur des feuilles volantes, mais le plus souvent c'est quand même à l'intérieur du manuscrit, donc à l'intérieur de livres. Et puis, on va représenter évidemment Thomas d'Aquin dans les églises, en particulier là où il y a déjà une vénération de Thomas, ou bien des églises qui appartiennent à l'ordre dominicain. Mmh. Alors, dans l'exposition, nous présentons un politique exceptionnel qui a été créé en Italie 12 ans après la canonisation de saint Thomas d'Aquin.
Ah oui.
Et sur ce polyptyque qui est composé de 3 panneaux, peut-être qu'il y en a eu plus à l'origine, mais actuellement nous avons 3 panneaux de ce polyptyque. Le panneau central est plus grand que les 2 autres. Mmh. Et sur ce panneau central, nous voyons Thomas d'Aquin qui siège, donc il est assis sur une catène en position d'enseignement. Et à ses pieds, il y a 2 donateurs ou 2 mécènes ou 2 dévots de saint Thomas. Or, sur les panneaux latéraux, qui sont beaucoup plus petits, nous avons d'une part saint Pierre, donc colonne de l'église, et saint Dominique, le fondateur des Dominicains. Mais c'est Thomas d'Aquin que l'on veut valoriser, le personnage est vraiment beaucoup plus grand que les autres. Et on observe aussi en Italie, à Santa Maria Novella, à Florence, une fresque qui a été redécouverte inopinément en 2018, donc ça fait pas si longtemps. On voulait restaurer un tableau représentant la résurrection du Christ peint par Vasari. On note ce tableau gigantesque et qu'est-ce qu'on découvre derrière ? Une fresque qui représente là encore Thomas d'Aquin assis à son pupitre en train d'enseigner à des personnes à ses pieds. Et les Italiens estiment que c'est la plus ancienne représentation de Thomas d'Aquin dans une église. Il la date donc de 1323 ou juste 1324, c'est-à-dire l'année après la canonisation de Thomas. Et on voit bien qu'on veut donner à voir le nouveau saint.
Il y a une histoire aussi avec cette fresque. Elle a été redécouverte il y a quelques années.
Oui, c'est ça. C'est en 2018, donc c'est vraiment tout récent.
Pour revenir sur le polyptyque du maître de la croix, vous le disiez, saint Thomas est représenté comme instituteur. Pendant longtemps, 30 ans de sa vie, Thomas va être dans l'autre position, celui où il va le recevoir une formation et ensuite il va passer de l'autre côté de la ligne.
Oui, alors Thomas en fait va quand même commencer à enseigner rapidement quand il est à Paris. Et alors pour les auditeurs, il y a eu ce qu'on appelle les révoltes des étudiants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc à Paris, le monde séculier, donc les prêtres et les étudiants qui n'étaient pas des religieux, et notamment qui n'étaient pas des religieux appartenant aux ordres mendiants, c'est-à-dire les dominicains et les franciscains, sont jaloux des dominicains et des franciscains, notamment parce que ces deux ordres comptent dans leur rang des gens savants et des gens capables d'enseigner mieux qu'eux. Alors, aux côtés de saint Thomas d'Aquin, il faut citer saint Bonaventure, le grand théologien de l'ordre franciscain. Du coup, les étudiants et les enseignants se révoltent, mais quand je dis se révoltent, c'est vraiment des révoltes, c'est-à-dire qu'on y va jusqu'aux mains, il n'y a pas que les insultes. Voilà. À un tel point que le roi est obligé de faire garder par sa garde les couvents, et il va falloir que le pape finisse par trancher et oblige à l'intégration de Thomas d'Aquin et de Bonaventure dans le corps enseignant.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette exposition à l'Institut catholique de Toulouse qui est proposée jusqu'au 29 juin, je le rappelle. On l'a dit, c'est dans le cadre du 7e centenaire de la canonisation de saint Thomas. Mais pourquoi c'était important de montrer des œuvres où on peut voir saint Thomas?
Oui, alors je vais d'abord préciser que l'exposition, elle partira ensuite au musée du Hiéron à Paray-le-Monial, où elle durera du 10 juillet jusqu'au 1er octobre 2023. Donc si nous avons des auditeurs qui ne sont pas de la région, normalement Radio Présence c'est pour la région, mais si vous déplacez en vacances cet été en Bourgogne, vous pourrez aussi voir l'exposition au musée du Hiéron. Donc pour reprendre votre question, effectivement Thomas d'Aquin, quand on pense l'intellectuel, on trouve que c'est quand même assez austère, même si des lycéens étudient aujourd'hui des textes philosophiques de Thomas d'Aquin durant leur cursus. Et nous voulions justement donner à voir la proximité de Thomas d'Aquin pour tout le monde. Alors, dans l'exposition, puisque l'occasion c'est le 7e centenaire de la canonisation, est présentée aussi pour la première fois au public la bulle de canonisation de saint Thomas d'Aquin, qui est conservée habituellement aux archives départementales de la Haute-Garonne et qui ouvre l'exposition sous le polyptyque dont nous venons de parler.
Pour bien comprendre, cette bulle de canonisation, c'est quoi ?
Alors, la bulle de canonisation, c'est quand le pape inscrit quelqu'un dans la liste des saints de l'Église, eh bien, il rédige un document qui atteste formellement que cette personne est effectivement comptée par l'Église comme saint et qu'on va pouvoir commencer à fêter sa fête liturgiquement.
Pour revenir sur la genèse de cette exposition, expliquez-nous, j'imagine que vous avez dû prendre beaucoup de temps pour réunir toutes les œuvres, d'aller les chercher un petit peu à droite à gauche, parce que tout n'est pas concentré à Toulouse, bien évidemment.
Oui, alors c'est assez exceptionnel, je pense, pour le montage d'une exposition, c'est que cela s'est fait très rapidement.
Ah oui.
Oui, on a quand même conçu l'exposition en une année, ce qui est très rapide. Nous avons la chance de connaître Monsieur Jacques-Charles Gaffiot, dont le métier est d'être commissaire d'exposition, qui, lui, connaissait les propriétaires du polyptyque dont nous avons parlé, puisque c'est une pièce privée actuellement, mais qui est en vente, donc on peut l'acheter. Voilà, et qui connaissait d'autres propriétaires. Et évidemment, c'était largement insuffisant pour créer une exposition. Donc, nous avons réfléchi ensemble, c'était en mars, fin mars 2022, sur comment compléter. Et c'est là que j'interviens, puisque c'est mon métier de m'occuper de l'iconographie dominicaine. Donc j'ai proposé de nombreux compléments et aussi pas mal de documents. Et grâce aux amitiés tissées, nous bénéficions aussi des manuscrits médiévaux de l'Ordre des Prêcheurs qui sont habituellement conservés à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse. Donc des manuscrits qui appartenaient aux Dominicains, des missels, des livres de théologie, etc. Il y a des archives qui sont venues de Rome, du lieu où je travaille à Sainte-Sabine, c'est-à-dire les archives générales de l'Ordre des Prêcheurs, des archives de la province dominicaine de Toulouse, de la province dominicaine de France, de la Bibliothèque du Solchoir à Paris, etc. Et de propriétaires aussi privés, dont nous connaissions, enfin, ou au moins je connaissais aussi quelques possessions qui ont complété l'ensemble.
C'est inédit de réunir autant d'œuvres représentant saint Thomas au sein d'une même exposition ?
Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans tout le monde, enfin dans le monde entier. En tout cas, à Toulouse, oui, c'est complètement inédit. Ça, c'est certain.
Comment elles sont présentées, ces œuvres, à l'Institut catholique de Toulouse, au musée de l'Institut catholique de Toulouse ?
Oui, alors, nous avons là aussi eu la chance de bénéficier des compétences d'une personne extraordinaire qui s'appelle Jérôme Dumoux, dont le métier est d'être scénographe.
Oui.
Et il réalise des expositions habituellement pour les grandes institutions, par exemple le château de Versailles, etc. Voilà. Et il a accepté de mettre ses talents et sa gentillesse, je tiens à le dire, au service de notre exposition. Donc il a conçu la scénographie, car dans le musée de l'Institut catholique, il faut savoir qu'on ne peut pas accrocher d'œuvres, car c'est un musée qui est difficile. Il est composé d'une part des vestiges du rempart romain de Toulouse, et en face ce sont des fenêtres. Donc aucun accrochage n'est possible, il fallait installer des cimaises, des structures permettant d'accrocher les œuvres, et évidemment créer aussi un certain nombre de vitrines ou emprunter des vitrines. Et là, je tiens à dire aussi, le réseau amical a bien fonctionné. Je pense au musée Clément Ader et des grands hommes de Muret qui nous a prêté de nombreuses vitrines, mais aussi une très belle croix processionnaire du XIIIe siècle.
À l'occasion de cette exposition, il y a aussi un concours qui est proposé, concours lancé pour les enfants et les collégiens. Et je me tourne vers vous, Louise Delamarche. Expliquez-nous l'objectif de ce concours, comment ça a fonctionné.
En effet, ce concours était en deux parties, deux concours. Un premier concours pour les 6-10 ans et un deuxième concours pour les 11-14 ans. Donc celui pour les 6-10 ans, il consistait à représenter, à ce que les enfants représentent le soleil de saint Thomas. Ils représentent la sagesse et à leur, ils devaient représenter à leur façon le soleil de saint Thomas d'Aquin, peu importe la manière. Et concernant le concours des 11-14 ans, ils devaient choisir une phrase, une parole dite par saint Thomas ou écrite par saint Thomas et l'écrire dans leur langue préférée, que ce soit du chinois, du japonais, peu importe, de l'hébreu, et l'illustrer avec dans une page enluminée. Voilà, tels les manuscrits médiévaux que l'on peut retrouver dans l'exposition.
Vous avez reçu pas moins de 700 dessins, 700 Exactement. Créations. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces créations ?
Alors, ces créations vont être exposées dans l'exposition. On a déjà exposé les lauréats, donc on a attribué des prix à chaque catégorie. On va faire une rotation de chaque dessin pour que chaque enfant ait l'occasion, peut-être s'ils viennent, de voir leur dessin exposé dans l'exposition et que, y compris les visiteurs, admirent les merveilleuses créations qui ont été faites pour ce concours.
Vous avez été étonné du nombre de participants quand même, 700, ça paraît énorme, pour saint Thomas qui parle peu aux jeunes.
Oui.
Ah oui, c'était incroyable. On a mis beaucoup de temps pour décider, pour élire nos dessins préférés, parce qu'il y avait un jury. Et après 700 dessins, oui, il y en avait plus de 700.
Oui, il y a vraiment des œuvres magnifiques. Puis elles sont venues de France, de Suisse, d'Allemagne, du Canada, des États-Unis. Donc ça aussi, c'était une jolie surprise. Le Tam Tam et le réseau aussi des écoles a bien fonctionné. Ça, c'est très clair. Mmh. Et alors, je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que l'idée de ce concours, en plus, c'était d'une part de montrer, bah, effectivement, Thomas d'Aquin, une figure intellectuelle. On pouvait avoir aussi une aura plus populaire, on va dire. Et également, il faut savoir qu'en 1923, c'est-à-dire lors du 6e centenaire de la canonisation de Thomas d'Aquin, la ville de Paris avait commandé à Harry Schaeffer, donc un artiste, la création d'un tableau qui a été placé dans l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris et qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, donc au Petit Palais. Et ce tableau, qui mesure près de 4 mètres de haut, représente un événement très peu connu de la vie de Thomas d'Aquin. Mmh. Ça, c'est très intéressant. Donc Thomas d'Aquin doit rejoindre Paris, il emprunte la voie maritime et il y a une énorme tempête qui se déclenche, donc tout le monde est paniqué à bord, et Thomas va inciter les passagers et les marins à faire confiance à Dieu. Alors c'est une version extrêmement romantique, hein, on est voilà, on est au début du XXe siècle et on sent encore les influences de la fin du XIXe siècle, et ce tableau est gigantesque. Donc il y a eu une création pour le 6e centenaire de la canonisation de Thomas d'Aquin, et là pour le 7e centenaire, c'est pas un artiste célèbre qui a fait une création, même si on a un petit tableau en réserve qu'on va peut-être exposer, qui a été fait par un ami du frère Philippe-Marie Marjolidon, mais ce sont les enfants qui ont exercé leur talent pour proposer des créations. Et je tiens à préciser aussi que les visiteurs sont tellement étonnés qu'ils photographient les dessins des enfants.
Ah oui, rien que ça. J'aimerais qu'on revienne sur le premier concours qui a été organisé pour les 6-10 ans. Vous avez lié Saint Thomas au soleil. Mmh. Expliquez-nous, pourquoi ce lien ?
Oui, alors tout à l'heure, nous avons parlé de la naissance de l'iconographie Thomas d'Aquin liée à sa canonisation. Et puis, au moment de sa canonisation, et précédant sa canonisation, on engage un frère dominicain pour rédiger la vie de saint Thomas. Car il faut faire connaître saint Thomas déjà aussi à la curie, aux ecclésiastiques, hein, qui vont décider oui ou non de la canonisation de Thomas. Et dans cette biographie de Guillaume de Tocqueau, il y a plein d'événements qui sont racontés de la vie de saint Thomas d'Aquin, avec pas mal de symboles utilisés. Par exemple, il y a un frère qui voit Thomas avec une chape couverte d'étoiles. Mmh. Et du coup, bah, dans la peinture, on va voir saint Thomas d'Aquin avec une chape étoilée. Et il y a d'ailleurs un des enfants qui... Le savait-il ? Comment le savait-il ? Je ne sais pas. A représenté effectivement la chape de Thomas d'Aquin étoilée, avec par-dessus une chaîne d'or qui rappelle la Catena Aurea, donc la chaîne d'or en latin, qui est un ouvrage de Thomas d'Aquin. C'est un commentaire des évangiles à partir des textes des pères de l'Église. Voilà. Donc il fait des maillons avec les citations des pères de l'Église, la chaîne d'or. Le soleil, comme l'a dit Louise, est symbole de la sagesse et de la science, sagesse humaine, science divine. On va retrouver donc le collier aussi. Donc là encore, c'est une vision. On voit saint Thomas d'Aquin portant un collier avec un maillage très spécifique et des pierres précieuses qui représentent les vertus. Donc c'est tout un langage symbolique qu'on retrouve ensuite dans les œuvres d'art.
Avant de clôturer cette première partie d'émission, Claire Rousseau, j'aimerais que vous puissiez nous dire un petit mot sur la maison Seyant avec laquelle vous travaillez. La maison Seyant qui, je le rappelle, se situe dans le quartier des Carmes à Toulouse, et c'est l'endroit où l'ordre des frères prêcheurs a été fondé. Expliquez-nous quel est l'objectif de cette maison Seyant. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver, surtout?
Oui. Alors, l'adresse exacte, c'est 7 Place du Parlement.
Voilà,
les
on
auditeurs
précise.
Qui voudraient venir la visiter. Alors, elle est ouverte au public les mardis, les mercredis et les samedis après-midi, et sur demande pour les groupes. Cette maison, eh bien, c'est là où tout a commencé, puisqu'elle appartenait à la famille Seyant, et Pierre Seyant, l'un des deux fils de la famille Seyant, fait la connaissance de Saint-Dominique, et avec d'autres jeunes gens, ils vont s'installer dans la maison familiale pour créer la première communauté de ce qui va devenir l'ordre des prêcheurs. Voilà. Donc dans ce lieu, qui est un lieu de mémoire, nous évoquons bien sûr la naissance de l'ordre dominicain, mais également sa restauration au XIXe siècle par Henri-Dominique Lacordaire. Et c'est une maison qu'on vient visiter, puisqu'il y a de nombreuses œuvres d'art aussi à regarder, mais dans laquelle on vient aussi prier. Et la messe y est célébrée chaque semaine, une, deux ou plusieurs fois par semaine, selon les prêtres qui passent, pas forcément d'ailleurs des dominicains.
Merci pour cette présentation de la maison Seyant. En tout cas, je vous propose à toutes les deux qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Adorothée.
se in questa brezza che ristora il cuore, dove tu che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. Adoro te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita, i miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza tua mi posterò.
Radio Présence dans le Luchonnet, 94 FM. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Claire Rousseau, membre de l'Institut historique de l'Ordre des Prêcheurs à Rome, et Louise Delamarche, étudiante, master, régie d'œuvre et médiation, pour parler de cette exposition sur saint Thomas d'Aquin proposée jusqu'au 29 juin au musée de l'Institut catholique de Toulouse. Cette exposition, son nom, saint Thomas, une sagesse offerte à tous. Claire Rousseau, je me tourne vers vous pour débuter cette deuxième partie d'émission. On continue à étudier les œuvres de cette exposition, je le rappelle, proposée à l'espace Georges Bacraver de l'Institut catholique de Toulouse. Et tout de suite, on étudie la studiosité de Thomas comme élément de sa sainteté, avec un tableau qui nous vient d'un lieu qui récemment a été ébranlé par les flammes.
Oui, effectivement, le tableau est conservé habituellement dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et c'est une chance unique de l'avoir en province, c'est d'ailleurs la première fois qu'il sort de Paris pour venir en province. Mmh. Donc il faut en profiter, alors d'autant plus je dirais qu'il n'est pas accroché à 3 mètres de haut comme il le sera à partir de l'année prochaine. Il est vraiment à hauteur d'homme, donc on est vraiment face au tableau, face à Thomas et face aux personnages qui sont sur le tableau. Voulez-vous que je vous parle de ce tableau ?
Bien évidemment.
Alors,
est-ce que déjà il a un nom, ce tableau ?
Oui, c'est saint Thomas d'Aquin, Fontaine de Sagesse. Et je rappelle que le sous-titre de notre exposition, c'est « Une sagesse offerte à tous ». Donc là, Thomas est assis sur une sorte de trône, on va dire, hein, de cathèdre. Il est en train d'enseigner et à ses pieds se trouve un rocher duquel jaillissent eh bien, de l'eau.
Voilà. C'est de l'eau, tout simplement. Voilà.
Hein, donc, des petits flots d'eau. Voilà. Et autour de lui, il y a plein de personnages, que ce soit des religieux, des dominicains, des carmes, un capucin, un augustinien, des prêtres séculiers, mais aussi des laïcs qui sont là. Et chacun a sa petite écuelle, son petit bol. On peut faire d'ailleurs le choix de son bol préféré. Pour recueillir la sagesse qui émane de l'enseignement de Thomas d'Aquin, de son étude. Et je précise que pour Thomas d'Aquin, c'est la première fois, justement, dans la bulle de canonisation, qu'un saint est reconnu saint pour ses vertus, mais aussi pour sa studiosité, c'est-à-dire pour le fait d'étudier et d'enseigner.
Eh oui. Oui, parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est important de rappeler que Thomas d'Aquin, il a été formé, puis ensuite il a été formateur. Là, on voit vraiment que saint Thomas inonde de son savoir et de son intelligence l'ensemble de ses disciples.
C'est ça, et c'est pourquoi Thomas d'Aquin va d'abord être déclaré docteur de l'Église, donc quelqu'un dont la doctrine est éminente et valable, mais il va être aussi ensuite appelé, en 1923, un docteur commun, c'est-à-dire docteur pour tous, et surtout docteur des docteurs.
Ah, hein, oui.
Ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il est, même pour les autres docteurs, il est une référence. Donc vraiment, se référer à la théologie de Thomas, c'est une garantie, et c'est presque même, on dirait, une nécessité.
Comment il se différencie des autres ?
Alors déjà parce que il a une science encyclopédique, alors, comme d'ailleurs son maître Albert le Grand, et aussi il a une pensée assez systématique. On le voit par exemple dans la Somme, alors la Somme de théologie qui peut déconcerter parce que c'est un travail énorme, mais qui en fait était un manuel pour les étudiants à la base. Donc c'est vraiment le résumé de la théologie pour les débutants. Et en fait Thomas procède d'une manière très spécifique qui ne lui est pas propre, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il la développe, donc il procède par question-réponse. Donc je vous pose une question, par exemple, est-ce que Dieu existe ? Réponse oui, argument 1, 2, 3, 4, 5. Réponse non, argument 1, 2, 3, 4, 5, synthèse. Donc c'est très systématique et du coup c'est très agréable et c'est très formateur. Voilà pourquoi on peut recourir sans cesse à Thomas d'Aquin. Mais je tiens à préciser que le principal dans l'œuvre de Thomas, ce n'est pas la somme de théologie. Thomas est avant tout et essentiellement un commentateur de l'Écriture sainte, c'est-à-dire de la Bible.
Sur ce tableau, on voit saint Thomas d'Aquin avec autour du cou un soleil.
Oui.
Il est représenté, mais c'est pas tout le temps. C'est pas si on prend le polyptyque, on voit qu'il y a pas de soleil autour de.
Oui.
De saint Thomas. Pourquoi justement sur ce tableau il est représenté comme ça ?
Après, donc dans les toutes premières représentations de saint Thomas d'Aquin, effectivement, sur les fresques ou les enluminures, on ne voit pas ce soleil, mais il va apparaître très rapidement. Et à la période moderne ou à la période contemporaine, on le voit, je ne dirais pas systématiquement, mais à 95% au moins, on voit Thomas avec un soleil qui représente donc la sagesse humaine et surtout la science divine. Hein, donc, c'est l'éclairage qui vient de Dieu.
Ce soleil, on le voit aussi sur ce tableau que je vous montre, une huile sur toile. Qu'est-ce qu'elle représente cette
Alors,
sur
c'est un portrait, qui est conservé à la bibliothèque du Solchoir à Paris. Donc, on voit non seulement Thomas avec sa chaîne d'or, son soleil et sa chape étoilée, mais on voit aussi une représentation de la colombe de l'Esprit Saint pour montrer que Thomas est directement inspiré par l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, Thomas, et c'est ça qui est remarquable chez Thomas, c'est qu'il n'y a pas de dissociation entre la contemplation, la prière, et ensuite l'écriture ou l'enseignement. Thomas, alors on a cette anecdote où on dit par exemple quand il savait pas quoi écrire, eh bien il allait à l'église et il posait sa tête sur le tabernacle pour demander à Dieu de l'inspirer. Et ça c'est fondamental, c'est pas qu'une œuvre de l'esprit humain. Alors sur le tableau il y a aussi une inscription, Vera Effigies, donc vrai portrait de Thomas d'Aquin. Alors, les portraits qui portent cette inscription sont nombreux, hein, pas simplement pour saint Thomas d'Aquin. Évidemment, il ne s'agit pas des traits physiques de Thomas d'Aquin, mais de dire que c'est ainsi qu'on doit le représenter. On doit justement le montrer inspiré par Dieu. On doit le montrer comme étant le maître enseignant. On doit le montrer comme étant rayonnant de la grâce divine avec ses nombreuses étoiles et bien sûr son auréole comme tous les saints.
Pour conclure sur la studiosité de Thomas d'Aquin, on a aussi une autre œuvre. C'est plus, elle est l'œuvre d'un destinateur. C'est le plan de la Somme d'Emmanuel Francesco. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, les auditeurs qui iront voir bien évidemment l'exposition, pourront voir que c'est une œuvre avec beaucoup d'informations quand même. Hein.
Oui, alors c'est une œuvre avec énormément d'informations. Il s'agit en fait du plan de la Somme de Thomas d'Aquin, et on peut être effrayé par la complexité de ce plan. Donc en réalité, c'est une sorte de vigne géante dont chaque feuille reprend une des questions traitées par Thomas d'Aquin dans son ouvrage. Mais cette vigne, elle est dominée par le Christ en croix. Et puis surtout, il y a un jeu de rayons très important, assez discret, parce qu'on est marqué par le foisonnement du feuillage. Mais en réalité, il y a un rayonnement, un jeu de rayons important. Donc on a un rayon qui lie Thomas d'Aquin à l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le haut de l'estampe, puisque c'est une estampe, il y a un calice surmonté d'une hostie. Et de ce calice surmonté d'une hostie, par un autre rayon qui vient toucher une figure allégorique, c'est-à-dire une jeune femme qui représente en fait la foi, la religion. Mmh. Et elle a près d'elle des livres où il y a marqué « Père de l'Église »,« Concile », etc. Et de la religion, un rayon part qui va toucher une église, symbole de l'église, peuple de Dieu, église universelle. Et un rayon part aussi de la poitrine de Thomas pour aller toucher l'église, pour dire que la doctrine de Thomas éclaire, illumine l'église. À l'angle inférieur droit, donc opposé à la figure allégorique de la foi et de la religion, il y a la philosophie humaine. Elle est là parce qu'elle joue son rôle, mais d'elle ne part aucun rayon pour l'église. Et Thomas d'Aquin ne cherche pas non plus à illuminer la philosophie humaine. Tout est orienté vers l'Église.
Comment on doit le lire, ce tableau? Si on arrive pour la première fois face à cette œuvre, à ce dessin d'Emmanuel Francesco, il faut que notre regard se pose sur quoi au début?
Sur le Christ, bien sûr.
Sur le Christ, qui est central sur ce
bien
tableau.
Bien sûr. C'est sur le Christ parce que Thomas d'Aquin fasciné et habité par le Christ. Et sans cesse, il s'adresse au Christ. Et on a ces épisodes dans la vie de Thomas où Thomas, il travaille, et puis au bout d'un moment, il se dit, mais dans le fond, ce que j'écris, est-ce que c'est valable ? Donc, il s'adresse au Christ en disant, mais c'est dérisoire, et est-ce que j'ai bien écrit de toi ? Et les textes disent que le Christ lui répond en lui disant, oui, tu as bien écrit de moi, Thomas. Donc Thomas est conforté, hein, quelque part, mais il aura cette humilité sur la fin de sa vie, justement parce qu'il vit de contemplation, de se dire, non mais en fait c'est que de la paille, ce que j'écris ça n'a pas de valeur par rapport au mystère même de Dieu. Il va poser ses plumes et arrêter d'écrire.
L'Eucharistie, elle est aussi au cœur de la vie de saint Thomas. Comment l'Eucharistie justement est représentée dans cette exposition?
Alors, elle est représentée de différentes manières. D'une part, nous avons un tableau que les auditeurs ne verront pas, à moins que j'envoie le cliché pour compléter. Il y a ce qu'on appelle le miracle de Bolsène. Donc, Thomas d'Aquin était dans un couvent au nord de l'Italie, à Orvieto, petite ville où se trouvait également le pape. Et à une vingtaine de kilomètres de là, il y a une ville qui s'appelle Bolsena, ou Bolsène en français. Et dans cette ville, un prêtre doute de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Il célèbre la messe et l'hostie se met à saigner sur le corporal. Du coup, tout le monde crie au miracle, bien sûr. Et puisque le pape est juste à proximité, on va porter le corporal à Orvieto. Et le pape va décider de généraliser la fête Dieu, ou fête du Saint-Sacrement, ou fête du corps et du sang du Christ. Et à ce moment-là, il commande à Thomas, qui a une grande dévotion pour l'Eucharistie, les textes de l'office et de la messe du Saint-Sacrement. Textes qui sont toujours chantés aujourd'hui. Alors Thomas ne compose pas la musique, il compose le texte, mais la Dorothée dévotée, le Pange Lingua, le Tantum Ergo, ce sont des œuvres de Thomas d'Aquin.
Il y a aussi quelques petits objets eucharistiques qui sont exposés à cette exposition jusqu'au 29 juin. Louise, est-ce que vous pouvez nous parler d'un objet en particulier qui a retenu votre attention?
Alors, parmi les objets que l'on peut trouver dans l'exposition, se trouve un autel portatif datant du XVIIe siècle. Cet autel est habituellement conservé au musée d'art religieux de Blois, et c'est un autel portatif français. Pour les auditeurs qui nous écoutent, cet hôtel est fait en bois polychrome et il possède une serrurerie en fer. Lorsqu'il est fermé, on aperçoit un joli décor floral, très très beau décor floral sur un fond bleu. Et tout autour, un petit filet rouge qui entoure la boîte. Lorsqu'il est ouvert, on observe au centre de cet hôtel portatif un calice en argent doré. En dessous de ce calice se trouvent des petits chérubins, quatre chérubins qui soutiennent le calice, ainsi que de part et d'autre des anges avec des encensoirs. Et de chaque côté, sur les angles supérieurs, on observe des petits angelots qui sont en train de prier. Et c'est une partie que j'aime beaucoup car elle est très délicate et les couleurs sont, même si elles datent du XVIIe siècle, c'est encore très, très prenant et je trouve ça très poétique en quelque sorte. Et voilà, elle était utilisée pour le rituel du Saint-Sacrement, donc crucial hein, pour ce rituel. Et elle permettait également le stockage d'une pierre d'autel. Voilà. Et pour en découvrir plus, je vous invite à
aller voir l'exposition.
Voilà. Et en complément de ce que vient de nous dire Louise, j'ajoute que cet hôtel portatif a servi au moment de la Révolution, au moment de la Terreur, à un prêtre réfractaire. Ce qui ajoute aussi une valeur historique supplémentaire et touchante, hein, puisque ce prêtre pouvait emporter cette valisette, on va dire, fermée, et l'ouvrir et célébrer le Saint-Sacrifice partout où il était.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Vous en avez parlé justement tout à l'heure. On écoute le Panjoe Lingua, une œuvre aussi de Saint Thomas.
Merci.
Thank you.
Radio Présence à Mirande, 104.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour la troisième partie de cette émission, la dernière malheureusement. Je suis toujours avec Claire Rousseau, membre de l'Institut historique de l'Ordre des Prêcheurs à Rome, et Louise de la Marche, étudiante à l'Université Jean Jaurès, master régie d'œuvre et médiation. Et toutes les deux, vous êtes là pour nous parler de cette exposition sur saint Thomas d'Aquin qui est proposée à l'Institut catholique de Toulouse au musée jusqu'au 29 juin. Dans cette dernière partie d'émission, Claire Rousseau, vous vouliez nous parler d'une autre thématique abordée durant cette émission, cette exposition, pardon, ce sont les vertus de saint Thomas.
Eh oui, car évidemment, quand on va canoniser quelqu'un, on recherche dans sa vie s'il a pratiqué les vertus. Et pour Thomas, bien sûr, il a pratiqué les vertus. Alors, dans l'exposition, on propose des illustrations de deux vertus, dont peut-être la plus célèbre et la plus étonnante pour les personnes qui ne connaissent pas la vie de saint Thomas d'Aquin, c'est la chasteté. Chasteté sexuelle, chasteté intellectuelle. Que s'est-il passé dans la vie de Thomas? Quand Thomas a décidé de quitter les bénédictins pour entrer dans l'ordre dominicain, sa famille n'a pas été du tout contente. Donc, on l'a enlevé et enfermé pendant 2 années dans le château familial. Et comme Thomas ne cède pas aux pressions familiales, ses frères ont un jour la bonne idée d'introduire dans sa chambre une prostituée en se disant « elle va jouer de ses charmes, se passera ce qui se passera » et il renoncera donc à la vie religieuse et notamment dominicaine. Ça ne marche pas, le jeune homme est ébranlé, mais il saisit un tison dans la cheminée, il chasse la prostituée, puis il trace avec le brandon éteint une croix sur le mur, et là il s'écroule en larmes et en prière. Et à ce moment-là apparaissent 2 anges qui lui remettent une ceinture qui va le garantir contre toute tentation, contre la chasteté. Alors on raconte que c'est sur son lit de mort que Thomas d'Aquin raconte l'histoire. Le maître de l'ordre qui est là prélève la ceinture, donc elle est conservée dans un reliquaire en Italie. Et progressivement, au fil des siècles, vont naître ce qu'on a appelé des confréries de la milice angélique, dans lesquelles les gens s'engageaient à porter la ceinture. Donc à partir du XXe siècle, on va remplacer la ceinture par une médaille. Et surtout, ils vont prier quotidiennement la Vierge Marie et saint Thomas d'Aquin pour être eux-mêmes préservés contre la tentation. Donc on a beaucoup d'œuvres peintes et d'œuvres gravées qui représentent ces scènes de l'introduction de la prostituée, de l'arrivée des anges qui vont ceinturer Thomas d'Aquin. Et notamment, on voit une grande estampe du XVIIe siècle qui date d'une dizaine d'années après la création de la milice angélique. Donc dans le haut de l'estampe, on rappelle la scène, l'événement du temps de saint Thomas d'Aquin, encadré par la représentation de 2 saintes dominicaines qui elles-mêmes ont été préservées des tentations grâce à leur invocation de Thomas d'Aquin. Et dans le bas de l'image, eh bien, il y a 2 frères qui sont derrière une table. Ils sont en train d'inscrire les nouveaux confrères au registre. Et au milieu de l'estampe, on a le règlement de cette confrérie, à quoi on s'engage au niveau des prières, ou aussi aller à la messe le jour de la fête de saint Thomas d'Aquin, etc. Et encore une fois, il ne s'agit pas simplement de la chasteté sexuelle, mais d'une manière plus large, d'une chasteté aussi intellectuelle. On ne lit pas n'importe quoi vraiment on veut vivre avec Dieu. On se préserve de spectacles qui sont obscènes, ou etc. Voilà.
La dernière thématique qui est abordée durant cette exposition, ce sont bien évidemment les reliques de saint Thomas et les reliquaires.
Oui, alors pour 2 raisons. D'une part parce que Thomas d'Aquin est canonisé en 1323 et dès 1368, le pape va ordonner l'envoi des reliques de Thomas d'Aquin à Toulouse, aux Jacobins de Toulouse. Et l'entrée solennelle des reliques dans Toulouse se fait le 28 janvier 1369. De ce fait, chaque année au couvent des Jacobins, il y a une messe solennelle avec procession des reliques de Thomas d'Aquin. Voilà. Et cette année, il a été décidé de créer un nouveau reliquaire pour abriter le chef, donc le crâne de saint Thomas d'Aquin. Les autres ossements restent sous l'autel. Et ce chef fait un tour de France, a entrepris un tour de France. Même, je crois qu'il partira peut-être à l'étranger aussi durant les 3 années de jubilé, puisque cette année, nous fêtons le 7e centenaire de la canonisation de Thomas d'Aquin, l'an prochain, les 750 ans de sa mort, et l'année suivante, en 2025. 1925, les 800 ans de sa naissance. Et là, on a retracé dans cette dernière pièce, eh bien, effectivement, l'histoire des reliques de Thomas d'Aquin depuis la promulgation de la bulle papale ordonnant leur transfert à Toulouse. Donc, on a aussi une bulle avec les indulgences, qui date aussi de 1368. On a aussi une bulle, d'ailleurs, c'est assez amusant, en 1368, dans laquelle le pape dit « Non, non, mais là, on ne touchera plus aux reliques de Thomas, elles restent toujours aux Jacobins de Toulouse. » Alors, évidemment, l'histoire n'a pas respecté ce vœu, puisque déjà, il y a eu les réformés qui ont saccagé la ville de Toulouse et les églises et qui vont voler la chasse de Thomas, bon, en laissant les eaux. Et ensuite, la Révolution française va conduire aussi à déplacer les reliques de Thomas à la basilique Saint-Sernin pour les préserver. Et elles vont réintégrer, grâce à M. Maurice Prin qui a sauvé les Jacobins en 1974, c'est-à-dire lors du 7e centenaire de la mort de Thomas d'Aquin.
Un petit mot pour conclure sur ce mausolée de saint Thomas d'Aquin à Toulouse.
Oui, donc au XVIIe siècle, donc après le saccage des réformés, les dominicains vont décider de monumentaliser l'endroit où sont conservées les reliques de Thomas. Donc ils construisent tout simplement un arc de triomphe au milieu de l'église des Jacobins, un arc de triomphe qui était aussi élevé que les colonnes de l'église elle-même. Donc les auditeurs qui connaissent les Jacobins mesurent l'importance de ce mausolée. Et au centre de ce mausolée, il y avait la châsse qui avait été ciselée par les orfèvres parisiens en argent avec des diamants incrustés. Donc c'était absolument magnifique. Évidemment, à la Révolution, la châsse est de nouveau volée, mais pas le coffre en bois intérieur, qui se trouve d'ailleurs au cœur de l'exposition dans cette pièce consacrée aux reliques et reliquaires de Thomas d'Aquin. Et deux colonnes de marbre rose de ce mausolée subsistent. Elles sont sous la tribune de l'or de l'église Saint-Pierre des Chartreux à Toulouse. Alors, c'était un monument magistral. Hein. Les récits des voyageurs qui viennent à Toulouse au XVIIe et au XVIIIe siècle en parlent, tellement c'était énorme.
Un petit mot pour conclure, peut-être pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir cette exposition, si ce n'est pas déjà fait, après la présentation, la belle présentation que vous nous avez faite toutes les deux, toutes ces œuvres.
Eh bien, nous avons parlé de quelques œuvres, il y en a beaucoup d'autres. Je crois que vous serez surpris, étonnés, et j'espère très heureux de découvrir la vie, l'aura et la pensée aussi de Thomas d'Aquin par ce biais culturel.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux, Claire Rousseau.
Avec plaisir, Timothée.
Et Louise Delamarche. Et je rappelle cette exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 29 juin au musée de l'Institut catholique de Toulouse. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, même découvrir les œuvres dont nous avons parlé pendant une heure, rendez-vous sur notre site internet www.radioprésence.com. L'émission sera rediffusée à 21h et vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Radio Présence, bien évidemment. Encore merci à toutes les deux. Et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.